Nous ouvrons donc la parole de Dieu dans l'Épître de Romains au chapitre 9 et nous continuons notre étude de l'Épître aux Romains et de ce 9e chapitre. Alors tournons donc dans Romains chapitre 9 à partir du verset 6 et nous allons lire au verset 11 jusqu'au verset 13. Romains 9, 6 à 13. Puis, juste avant de lire ce passage-là, je vous rappelle trois événements importants. Quatre, nous avons notre réunion de fer cet après-midi. Puis ce soir, nous avons le groupe de Parole de vie Bethel qui viennent nous visiter. Puis il faudrait qu'on soit là. Il ne faudrait pas que tous ces jeunes-là viennent de si loin puis qu'on ne soit pas là nous autres. Alors, soyons là, c'est important. Puis c'est encourageant de voir des jeunes qui veulent servir le Seigneur. Je vous rappelle que la fin de semaine de Pâques, nous avons deux réunions très spéciales. Le vendredi saint, vendredi soir, à 7 heures. Moi, je ne comprends jamais. C'est Noël, là. Pas bien important, ça, pour moi. Je ne suis pas sûr que les premiers chrétiens ont fêté Noël. Oh, j'aime ça avoir mes petits-enfants qui reçoivent des cadeaux chez nous, là. Mais comme fête religieuse, le Noël me laisse un peu froid. Mais la Pâque, le vendredi saint, c'est important. Puis, c'est bon qu'on soit ensemble. Il y a des chants préparés. Sept frères qui vont parler des sept paroles de Jésus sur la croix. Une réunion courte où nous allons prier ensemble pour nous rappeler la mort de notre Seigneur. Et dimanche matin aussi, une réunion spéciale avec la musique et un court message de la parole de Dieu. Manquons pas ces réunions. Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaïe, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il commence à faire beau, puis l'autre soir, il faisait même assez chaud le soir que j'ai pu sortir dehors, regarder les astres. J'aime beaucoup les étoiles, mais pas l'hiver. Et je me suis mis à penser cette semaine à cette grande époque qui a duré plus de 1000 ans, plus de 2000 ans en effet. Les hommes pensaient que l'univers était géocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire géocentrique? La Terre est le centre de l'univers. Le soleil, les planètes, les étoiles gravitent autour de la Terre parce que la Terre est le centre de l'univers. En effet, les Grecs croyaient beaucoup cela, puis ils croyaient à la perfection, eux, puis vous comprenez un peu pour les Grecs, la géométrie, la trigonométrie, les formes étaient très importantes. Et ils croyaient que chaque astre, chaque objet dans le soleil avait une orbite autour de la Terre qui était un parfait cercle. Ils avaient des difficultés avec les planètes. Ça veut dire quoi, planète? Voyageurs. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient avec les planètes. Mais dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, Ptolémée, un grand astronome grec en Alexandrie, a fait un modèle parfait pour son époque et pouvait prédire parfaitement l'orbite de chaque objet dans le ciel, même les étoiles, selon son perspective. De sorte que dans le 14e, 15e, 16e siècle, c'est sûr que tout le monde pensait que la Terre était géocentrique, et surtout l'Église populaire, l'Église catholique. Copernicus, dans le 16e siècle, a fait un modèle dans lequel il dit que le Soleil est au centre de l'univers. Mais il n'a pas osé publier. Parce qu'un de ses amis a été brûlé, parce qu'il avait osé dire cela. Il y a un Danois, Brahan, qui disait que le Soleil et la Lune faisaient le tour de la Terre, mais les autres, les étoiles, faisaient le tour du Soleil. Bon, c'est un peu compliqué. Et dans le 17e siècle, Galileo, vous le connaissez lui, hein? Galileo, qui a développé beaucoup le télescope, a observé, puis a vu les phases de Vénus, qui, comme la Lune, a des phases dans le Soleil. Puis il a vu les lunes de Jupiter qui font le tour de Jupiter, puis il dit, là, ça ne marche plus. La Terre n'est plus le Soleil, le centre de l'univers. Puis il a prétendu que les planètes tournaient autour du Soleil. Puis il a été amené en procès avec cela. Il a passé en procès. Puis on n'a pas osé le brûler parce qu'il était tellement populaire, mais on lui a défendu de publier ses œuvres. Puis il était, comment on dit ça, house arrest, là, lorsqu'il était dans sa résidence, pas capable de sortir de sa résidence pour le reste de ses jours. Parce qu'il a osé dire que les planètes ne tournent pas autour de la Terre. Aujourd'hui, on sait que, surtout depuis le temps de Kepler et d'autres, que la Terre n'est pas le centre de l'univers. En effet, les planètes tournent autour du Soleil. Puis la Terre, c'est rien. Savez-vous que le Soleil, il rentrerait 1 million de Terres dans le Soleil? Qui oserait dire que la Terre est le centre du Soleil? Savez-vous qu'il y a des étoiles qui sont tellement vastes que ils pèsent 100 fois plus que notre Soleil et qu'ils sont 4 fois plus en diamètre que notre Soleil. Même notre Soleil, c'est rien. On s'est trompé. On a mis la Terre au centre de l'univers. Ça l'a empêché pendant des centaines d'années à la science d'avancer. Puis ça a montré un peu qu'est-ce qui arrive quand l'Église se mêle des affaires qui ne la regardent pas. Aujourd'hui, c'est la politique, puis l'environnement, puis toutes sortes de choses comme ça. Il y en a assez pour s'occuper de ça, que l'Église s'occupe des affaires qui le regardent, en ce qui me concerne. Mais il y a quelque chose de pire que ça. Il y a une doctrine qui est pire que cela. C'est la doctrine d'un univers qui est anthropocentrique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'homme est le centre de l'univers. J'aime beaucoup les bébés. J'aime particulièrement mes petits-enfants, comme de raison. Puis, c'est quand même surprenant qu'on les aime tellement parce qu'ils sont assez égoïstes. Un bébé qui a faim ou bien qui a une salle, qui a besoin d'être, une couche qui a besoin d'être changée, ou bien qui ne file pas, puis ça ne range pas, que ce soit le moment ou non, que ce soit au milieu d'une réunion à l'église, ou si c'est l'heure de souper, ou si maman est fatiguée, ça pleure jusqu'à ce que le bébé reçoive ce qu'elle veut. Puis parfois, ça pleure encore après. Le bébé pense juste de lui, n'est-ce pas? Bien, malheureusement, nous vivons dans une société qui est un peu comme cela. J'étais tout jeune homme quand John Kennedy a dit, ne pensez pas à ce que votre pays peut faire pour vous, mais pensez à ce que vous pouvez faire pour votre pays. Puis c'est beau ça, mais ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Puis regardons un peu notre discours politique de ce temps-là, puis chacun veut promettre plus que l'autre, n'est-ce pas? On vit dans un monde qui est anthropocentrique. Il y a des petites nouvelles pour nous aujourd'hui. L'univers est théocentrique. L'univers existe pour Dieu. Et moi, j'existe pour Dieu et vous existez pour Dieu. Et Dieu est le centre de l'univers, je ne le suis pas et vous ne l'êtes pas. Et cette philosophie qui est « nous sommes le centre de l'univers » et « comment ose Dieu faire ci » et « comment ose Dieu agir comme cela » chers amis, c'est parce que nous nous sommes mis en place qui ne nous reviennent pas. Nous avons tous probablement vu des familles qui sont centrées autour d'un enfant. Demandez au professeur d'école qu'est-ce que ça fait dans la classe à l'école du dimanche. Excusez-moi, la classe à l'école. Hein? Pourquoi que nos profs sont tous en burn-out et que ça va mal dans nos écoles? Parce que les enfants se pensent au centre de l'univers, puis papa et maman ne leur ont jamais montré qu'ils ont leur petite place, mais qu'ils ne sont pas les êtres les plus importants dans l'univers. Et lorsque nous, les hommes, les femmes, les êtres humains, on pense que nous sommes le centre de l'univers, ça distorsionne notre compréhension de la réalité. Alors ce matin, nous regardons l'élection de Dieu. Et je réalise que c'est un sujet difficile. Je ne l'ai pas choisi. On fait l'étude dans le livre de Romains. On veut déclarer tout le conseil de Dieu. Alors, on l'enseigne parce que c'est dans la Bible. Comme introduction, je voudrais vous rappeler que Paul est en train d'expliquer que Dieu n'a pas manqué son but pour son appel d'Israël. Okay, si ça flash, là, ça va, c'est correct. Et que, effectivement, Paul vient d'argumenter dans le chapitre de Romains, comme nous l'avons dit la semaine passée, que notre salut, notre position en Dieu, en Jésus-Christ, est sécure. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il nous rassure de façon extraordinaire dans Romains chapitre 8. Mais au chapitre 9, certaines personnes pourraient se demander, puis Paul anticipe comme toujours les objections de ses lecteurs. Quelqu'un pourrait s'objecter puis dire, mais oui, mais Israël a été rejeté par Dieu, puis Israël n'est pas sauvé, puis Israël a rejeté le Messie, puis comment vous expliquez ça si le Dieu dans son salut, c'est sécure. Israël n'est pas bien sécure. Comment? Puis Paul est en train d'expliquer que Dieu n'a pas manqué son but pour son appel d'Israël. Puis au verset 6, c'est peut-être le verset clé dans ce passage, il dit, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Ouh! Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont du peuple de Dieu, Israël. Le mot Israël ici est utilisé de deux façons différentes dans ce verset. Ceux qui sont physiquement descendus d'Israël, ceux qui sont juifs de naissance, de nationalité, ne sont pas tous le peuple de Dieu choisi. C'est ça que Paul est en train de dire dans ce passage. Maintenant, nous faisons tous des choix. Puis on fait des choix tous les jours. Prochainement, on va avoir des élections. Notre sujet, c'est l'élection. On pourrait parler d'élection aujourd'hui, mais je n'ai pas le droit. Mais prochainement, nous allons réélire Stephen ou bien élire Michael ou Jack ou peut-être même Gilles, on ne sait pas. Puis on va élire quelqu'un. On va faire un choix. On va faire un choix. Puis nous faisons des choix tous les jours. Puis Dieu aussi fait des choix. Il est souverain. Et nous ne le sommes pas. Dieu a le droit de faire des choix. Par exemple, Jésus a choisi 12 disciples, 12 apôtres. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres? Pourquoi il a choisi ceux-là, puis pas lui, puis elle, puis lui, puis elle? Il a fait des choix. Dieu a fait des choix. Puis Dieu fait des choix, puis c'est le thème ici. Puis Dieu a le droit de faire des choix, puis on n'aime pas ça. Il y a quelque chose en nous qui n'aime pas ça. Mais Dieu fait des choix. De ce temps-là, dans mes lectures, je suis venu à le choix des 12 disciples. Puis dans le livre des Actes, je suis venu à la place où Paul voulait aller en Macédoine. Puis il voulait prêcher, excusez pour Macédoine, en Asie, en Galatie, pour prêcher l'Évangile. Puis Dieu dit non. Puis il l'a envoyé en Macédoine, puis en Grèce. Dieu a fait des choix, puis Dieu fait des choix. Mais donc, regardons des choix ici, trois choix dans trois générations que Dieu a fait. Les choix de Dieu, trois ici ce matin. D'abord, le choix d'Abraham. Paul recule au début de la nation d'Israël, puis il va dire, Abraham a été choisi. Abraham est le premier juif. Avant d'Abraham, il n'y avait pas de juif. Puis Dieu a choisi Abraham. Puis il n'a pas choisi une autre personne. Il a choisi Abraham dans la ville d'Ur. Il n'a pas choisi une personne dans une autre ville. Dieu a regardé des cieux, regardé sur la terre, il y avait déjà certainement des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes, je ne sais pas. Puis Dieu a regardé, puis regardé, puis regardé, puis sur tous les hommes de la terre, Dieu a dit, je choisis Abraham, puis je fais de lui une nation qui sera mon peuple. Dieu a fait un choix, c'est le point de Paul ici. Dieu fait des choix ici. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 15, Dieu dit ceci. « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. » Oh, que c'est beau que ça, comme définition de l'élection. Que Dieu s'est attaché aux pères de ce peuple des Juifs pour les aimer. Est-ce que ça te fait du bien de prendre ce langage pour toi, puis dire que Dieu, dans l'éternité passée, dans ses degrés, a choisi toi pour t'aimer? Et, wow! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça dans ce monde, dans cet univers, pour moi, que Dieu a décidé de m'aimer? Et c'est eux, après leur prospérité, c'est vous qui le choisissez dans tous les peuples. Moïse dit ça à son peuple avant de mourir. Dans Deutéronome 10, 15, il dit, « Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité et payé. » Dans 7, 6, il dit quelque chose d'intéressant. L'Éternel, ton Dieu, te choisit pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. 14.2, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te choisit pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la terre. Dans chapitre 7, versets 6 et 7, il dit ceci, « Ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, le moins beau, le moins important, le moins nombreux, peut-être même les moins sans allure, ces Juifs-là. » Puis Dieu les a choisis. Puis il continue, puis il dit, « Oh, que ça chauffe votre cœur, cela, mais l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. » Oh, voilà la source de notre sécurité. Dieu, le Dieu éternel des cieux, Créateur tout-puissant, il nous regarde et il nous aime. Puis il tient le serpent et il garde sa parole. Ça, c'est le message de Moïse et son peuple. Jésus-Christ, Abraham était idolâtre. Il vivait dans la ville dure, pas loin de l'Irak, pas loin de Babylone, dans l'Irak moderne. Un peuple qui avait probablement inventé les horoscopes, l'adoration des astres, l'astrologie, qui adorait à Ur particulièrement la lune, qui n'était pas connu pour leur grande moralité, qui servait des fausses dieux. Josué 24, 2, Josué rappelle à son peuple, « Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, de l'Euphrate, et ils servaient d'autres dieux. » C'était des idolâtres. Abraham était idolâtre. Et l'appel d'Abraham est extraordinaire. Oh, quelle belle parole il dit au Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Puis ça, c'est moi et toi, puis c'est ma famille, puis c'est votre famille, ça. Quelle promesse que Dieu fait à Abraham. Dieu choisit Abraham. Trois choses en clair ici. D'abord, Abraham n'a pas cherché Dieu. Dieu a cherché Abraham. Abraham était content d'adorer sa lune. Puis Dieu l'a appelé. Deuxièmement, le début, et non pas le début, en tout cas, le début du peuple de Dieu qui est Israël a commencé avec l'élection d'Abraham. Israël a commencé quand Dieu a choisi Abraham. Puis la motivation de Dieu est cachée dans ses décrets éternels que nous ne pouvons comprendre, mais ces motivations ne sont pas liées à des événements externes. Dieu a choisi Abraham pour ses propres raisons. On ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas à cause de quelque chose chez Abraham. Bon, notre deuxième choix de Dieu, notre deuxième génération ici, c'est Isaac. Parce que, au verset 9, la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, au verset 9, et Sarah aura un fils. Au verset 6, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Les personnes, les Juifs, là, qui n'acceptaient pas ce que Paul disait ici, et puis nous aussi, on pourrait dire, mais oui, mais il fallait que ça commence quelque part, là. C'est beau, Dieu a choisi Abraham, on sait tout ça, mais après, par exemple, après, là, bon, c'est tous des Juifs, hein? Puis Paul tourne donc vers la deuxième génération. On dit, mais oui, notre histoire a commencé par le choix de Dieu par Abraham. Il fallait que ça commence quelque part. On sait que Dieu a choisi Israël, mais ce n'est pas ça qui est en question. C'est la suite qui est en question. Puis Paul dit, OK, On va regarder la suite. On va regarder ça. Puis Paul continue, puis il prouve que ce n'est pas tous les descendants d'Abraham qui sont choisis. On chante, dans l'école du dimanche, je ne sais pas si on chante encore ça. Père Abraham avait beaucoup de fils. Est-ce qu'il y en a ici qui ont chanté ça lorsqu'il était petit en bas? Oui, tu as chanté ça. Oui. Bon, c'est vrai que dans sa vieillesse, il a pris plusieurs femmes, puis, mais normalement, là, Abraham avait 2 fils. Il avait 2 fils. Puis l'aîné était Ishmaël. Puis il était physiquement le descendant d'Israël, d'Abraham. Puis Dieu a choisi Isaac. Dieu a fait des choix. Entre Ishmaël et Isaac, nous dit Paul ici, Dieu a fait un choix. Dieu a choisi Isaac. En effet, les enfants d'Ishmaël ne sont pas le peuple de Dieu. Vous le savez, ce sont probablement le peuple arabe qui ne sont pas. Il y a certainement des Arabes qui sont au Seigneur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je fais partie du peuple de Dieu. Je ne suis pas juif. Mais le peuple de Dieu, c'était les Juifs, pas les enfants d'Ishmaël. Même si nos amis musulmans voudraient beaucoup contester cela. Hein? Mais il y a autre chose ici. Ishmaël fut le fils né par les pouvoirs naturels d'Abraham. Abraham, qui s'est tanné un peu d'attendre la promesse de Dieu, est allé vers la servante, l'esclave de Sarah, puis a fait un enfant avec elle. Puis Isaac fut le fils né suite à une intervention surnaturelle par Dieu. Isaac, fils, suite à une intervention surnaturelle de Dieu. Abraham et Sarah furent bien trop âgés pour avoir des enfants. Et le choix d'Isaac, un acte souverain de Dieu. Alors Dieu a choisi Isaac. Voyez-vous la logique de Paul ici? Il est en train de dire à travers tout le peuple de Dieu, ce n'est pas tous les descendants d'Abraham qui sont vraiment les enfants de Dieu, c'est ceux que Dieu a choisis. Dieu a choisi Isaac, il n'a pas choisi Ishmaël. Mais, dans toute bonne cour, dans toute bonne salle de classe, il y a toujours des élèves qui ont des objections. Puis, nos amis peuvent nous dire, en tournant au troisième point, parce qu'on parle de Jacob, puis ils peuvent nous dire, ces amis-là, mais Ishmaël est le fils d'une esclave égyptienne. Il ne faut pas charroyer, là. Ce n'est pas surprenant que Dieu n'a pas choisi Ishmaël. Abraham avait péché lorsqu'il a fait cet enfant-là. Puis elle était égyptienne, de sa mère. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Puis, en arrière de ça, il y a cette idée que la descendance chez les Juifs vient de la mère et non pas du père. Ça, vous le saviez, ça, hein? Si vous êtes né d'une famille juive, et si votre père n'est pas juif et votre mère l'est juif, vous êtes juif. Puis si votre père est juif et votre mère n'est pas juif, vous n'êtes pas juif. OK? Non, descendance. De là, l'histoire de Timothée. Paul le trouve, sa mère était juive, son père était païen, mais il était juif. Notre descendance juive vient de notre mère et non pas de notre père. Ça, c'est leur culture, c'est leurs idées. Alors, ces personnes pourraient dire, oui, mais Ishmaël, écoute bien, sa mère n'était pas juive, sa mère était une égyptienne. C'est pas surprenant. C'est normal qu'il fût rejeté. Il est né suite au péché et à la désobéissance d'Abraham. Votre argument, Paul, ça ne tient pas de l'eau. C'est pas bon, ton argument. Paul avance à une troisième génération. Jacob. Parce que voyez-vous, Jacob et Ésaü, ils sont tous les deux issus de parents juifs. Isaac est juif. Rebecca est juif. Ils ont les mêmes parents. Le petit argument qu'on a fait pour Ishmaël, ça ne marche pas avec Jacob et Ésaü. Puis à bord de ça, là, ils sont juifs pur sang. Puis si on veut aller plus loin que ça, chers amis, ils sont même des jumeaux. Écoute, ça peut être plus proche parent que ça, jumeaux. Que Dieu ait choisi Isaac au lieu d'Ishmaël, OK. Mais là, Jacob et Ésaü, c'est des jumeaux. Puis, le choix de Dieu pour Jacob va contre les règles et les coutumes, parce que Ésaü est l'aîné. Puis dans cette culture-là, c'est l'aîné qui est l'héritier. Le premier-né, c'était, faisait partie de la culture, mais Dieu va là contre cela. Il l'a fait avec Isaac, parce qu'Ishmaël était l'aîné. Dieu aime ça, faire des choses comme ça, des fois, pour nous surprendre. Puis le passage nous dit même quelque chose d'autre, que le choix de Dieu a été fait avant qu'il soit né, avant qu'il puisse poser des gestes qui auraient pu motiver le choix de Dieu pour Jacob. Je vais lire le passage, c'est un passage qui choque plusieurs, mais c'est ça que ça dit, c'est Dieu qui le dit. Regarde bien, verset 11, Romains 9, 11. « Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. » Et par la seule volonté de celui qui appelle. Écoute bien, veux-tu me dire comment on aurait pu écrire ça plus clairement que ça? Hein? C'est-tu clair que Dieu a décidé pour Jacob, au lieu de décider d'Ésaü, sur Ésaü, avant qu'il soit né, avant qu'il pose des gestes quelconques, parce que l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres, mais seulement de la volonté de celui qui appelle. Et si vous avez un petit orgueil, vous savez que vous êtes chrétienne, là, mais prenez votre orgueil et flush-le quelque part, parce que, chers amis, ça ne dépend pas de toi, pas de tes œuvres. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais meilleur ou plus intelligent, ou parce que toi, tu as fait ci, ou tu as répondu à ci, ou tout cela. Dieu t'a sauvé parce que, par sa volonté seule, il t'a appelé. Et ça doit être chez nous une source de très, très, très grande humilité. Il va plus loin que ça, au verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü, wow! Puis, tout le monde veut un peu adoucir cela. Mais oui, oui, mais Jésus a dit qu'il faut haïr nos parents puis nos enfants pour le servir. Puis, c'est pas haïr vraiment, c'est aimer moins un peu. Puis, bon, excuse-moi, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Faites-le dire qu'est-ce que vous voulez, mais j'aimerais simplement vous dire que la différence dans les affections de Dieu envers Ésaü et envers Jacob était assez forte et assez différente pour qu'il ait choisi Jacob et qu'il n'ait pas choisi Ésaü. Attention à vouloir pas accepter ce que le Bible dit et essayer de l'adoucir. Il faut dire qu'est-ce qu'il ne dit pas. Conclusion. Hey, je risque de finir avant le temps. Il y a eu des miracles. J'aimerais vous dire que je suis content que Dieu me choisit. Si mon salut dépend de mes choix, je pourrais le perdre. Parce que moi, je change d'idée. On est tout instable, nous autres, dans nos émotions. On est tout mal fait. J'aime bien dans les psaumes quand David dit, « Mais Dieu sait comment je suis fait. » Puis il décrit la fragilité de la nature humaine, comme la paille, comme le vent. On est comme ça, nous. Et mon salut ne dépend pas d'un choix que j'ai fait. Mon salut dépend d'un choix que Dieu a fait. Alléluia! Je suis content de cela. Je suis content aussi que Dieu choisit des méprisables. Comme Abraham, l'idolâtre. Comme Jacob, le tricheur. Son nom veut dire tricheur, vous le savez ça, hein? Celui qui triche. Bandit, voleur, comme Doug, le « Demandez ma femme, qu'est-ce qu'il faut mettre là? » Et comme toi, puis là encore, on vous laisse mettre qu'est-ce que vous voulez. Dieu choisit les misérables. Chers amis, si notre salut dépendait juste de nos choix, on serait tous perdus. Parce que personne ne cherche Dieu et nous sommes tous perdus sans force. Et s'il n'y a pas un acte de Dieu quelque part qui nous choisit, puis qui nous attire vers lui, qui nous appelle vers lui, on sera tous perdus. Maintenant, dans ma conclusion, je vais immédiatement dire ceci. Ne dites pas peut-être que Dieu ne m'a pas choisi. Ne dites pas ça. Le fait que vous êtes ici, votre présence ici aujourd'hui est une indication que Dieu t'appelle. Et si vous avez dans votre cœur quelque chose qui t'attire vers Dieu, c'est une indication que Dieu t'appelle. Et j'aimerais vous dire que Dieu est miséricordieux. Et à part de la doctrine de l'élection, puis comme faisant partie de la doctrine de l'élection, je voudrais dire, Dieu accueille ceux qui tournent vers lui. La semaine prochaine, je vais répondre à une question qui peut-être mijote dans votre tête. Est-ce que c'est juste tout ça? C'est-tu juste que Dieu en a choisi? Puis c'est quoi l'autre partie de cette doctrine-là? Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas choisi. On n'aime pas ça. C'est-tu juste ça? Puis Paul répond à cette question. J'aimerais vous donner le témoignage de Charles Spurgeon ici. Charles Spurgeon est né en 1834. Il s'est converti à l'âge de 15 ans. Puis il a commencé à prêcher à l'âge de 16 ans. Et pendant plus de 30 ans, il a prêché chaque semaine à des grandes assistances, plus de 5 à 6 000 personnes. Pendant de longues années, il n'y a pas un bateau qui a quitté l'Angleterre pendant cette période de la reine Victoria, cette période victorienne, où l'Angleterre était le centre de la terre, là, au niveau de le commerce en tout cas. Puis il n'y avait pas un bateau qui quittait l'Angleterre pour aller quelque part dans le monde qui ne contenait pas des grands paquets, des sermons de Spurgeon. Tous les fois qu'il prêchait, on faisait ça par papier et l'envoyait partout au monde. Moi, j'ai vu des copies de ces sermons qui datent de 1855 chez mon ami Phil Johnson en Californie, il y a des copies de ça. Puis, il donne son témoignage. Voulez-vous dire, savoir comment un homme comme ça a été sauvé? Voici sa description. Il dit, « Je pense maintenant que j'aurais été dans la noirceur et le désespoir si ça n'avait pas été de la bonté de Dieu qui a envoyé une tempête de neige un dimanche matin. Je m'en allais pour adorer Dieu dans la place dans l'église que je fréquentais normalement, mais je ne pouvais plus avancer à cause de la neige, et j'ai tourné dans une autre rue, puis je suis arrivé dans une petite chapelle méthodiste, on appelle ça Primitive Methodist, les méthodistes primitives. Et dans cette chapelle-là, il n'y avait pas plus que 12 ou 15 personnes. Puis à cause de la neige, le pasteur ne s'est pas présenté ce matin, et un pauvre homme, un cordonnier, est allé dans la tribune pour prêcher parce qu'il n'y avait personne d'autre. Puis il était bien obligé de rester proche de son texte parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Puis le verset qu'il a lu, c'était « Regarde vers moi et soyez sauvés, vous, les fins de la terre, les bouts de la terre. » Il n'a même pas prononcé les mots comme faux, mais ça n'avait aucune importance pour moi. Il y a, je pensais, un peu d'espoir pour moi parce que j'étais dans le désespoir. Dans ce texte-là, il y avait pour moi de l'espoir. Il a commencé comme ceci. Mes chers amis, c'est un texte simple, très simple. Il dit « Regarde ». Maintenant, ça ne prend pas beaucoup d'efforts, ça, regarder. Ça ne veut pas dire « Lever votre pied ou votre doigt ». Ça veut dire « Regarder ». Un homme n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à regarder. Vous pouvez être le plus grand des fous et vous pouvez regarder. Un homme n'a pas besoin de gagner des millions de dollars par année pour regarder. N'importe qui peut regarder, un enfant peut regarder. Voici ce que le texte dit. Ça dit, regarde vers moi. Ah, il a dit, avec son accent de campagne, beaucoup de nous en regardent vers nous-mêmes. Ce n'est pas la peine de regarder cela. Vous ne trouverez aucun confort en vous-même. Et puis, l'homme, le cordonnier, suivi avec ce texte comme ceci, regarde-moi. Je transpire comme des gouttes de sang. Regarde-moi, je suis sur la croix. Regarde, je suis mort et ressuscité. Regarde-moi, je ressuscite. Regarde-moi, je monte au ciel. Je suis assis à la droite du Père. Regarde-moi, regarde-moi. Puis il a terminé son message ainsi. Puis après ça, il m'a regardé, assis en arrière caché. Il a dit, il n'y avait plus de personne là, puis tout le monde savait que c'était qui l'étranger. Il dit, jeune homme, tu as l'air vraiment misérable. Puis j'étais misérable. Puis je n'ai pas habitué qu'on me parle comme ça dans une église. Hein? Mais il dit, c'était une bonne chose, Spurgeon dit. Il a dit, tu seras toujours misérable, misérable dans cette vie et misérable dans la mort et dans l'éternité. Si tu n'obéis pas à mon texte, il faut obéir ce moment où tu seras sauvé. Puis après ça, il a crié comme seulement ses prédicateurs pouvaient le faire à l'époque. « Jeune homme, regarde Jésus-Christ. » Mais Spurgeon de dire, à ce moment-là, le nuage est parti, la noirceur s'est dissipée. À ce moment-là, j'ai vu le soleil. Et j'ai chanté concernant le sang précieux de Jésus-Christ. Plus tard, Spurgeon va expliquer qu'il savait qu'il ne pouvait jamais être sauvé. Il avait essayé, jeune homme qu'il était, il avait essayé de se reformer de certaines des mauvaises habitudes qu'il avait, de certains péchés qui le troublaient. Il n'avait jamais réussi. Puis quand il a compris qu'il était possible que Dieu l'avait choisi et que le salut était de l'Éternel, Paul va dire ça tantôt, dans le chapitre 9, le salut de l'Éternel. Quand Spurgeon a entendu cela, ça a été lui une source d'espoir. Puis il a compris qu'il pouvait être sauvé. Je sais que dans notre société anthropocentrique, où l'homme est le centre de l'univers, vous, vous êtes le centre de l'univers, ça peut vous choquer de dire que Dieu a peut-être choisi. Arrêtez donc de contester Dieu, puis réalise que la vérité, c'est que Dieu t'a choisi. C'est ça qui est important. Et réalisez que si la doctrine de l'élection est vraie, c'est aussi vrai que vous avez une responsabilité. Et moi, je vous invite ce matin de regarder à Jésus. De regarder à Jésus. Vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu vous parle. Et si vous n'êtes pas encore au Seigneur, viens me voir après. Viens me voir après, j'ai hâte de vous parler. Viens voir d'autres frères responsables ici. Viens nous voir. On aimerait que vous sortiez de la salle aujourd'hui. La noirceur partie, hein? Le soleil qui brille dans votre âme, parce que vous avez été vraiment sauvés de vos péchés, que vous êtes Jésus. Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction. Oh Seigneur, que ça nous fait du bien, de sécurité, de savoir que nous sommes choisis par toi. Quelle grande vérité. Quelle bonne nouvelle. Nous sommes humiliés par ta bonté envers nous. Cela nous motive de vouloir te servir de tout notre cœur, de tout notre être. On demande avec instance pour celui, pour celle qui, comme Spurgeon, a rentré dans cette salle un peu dans la noirceur, qui n'est pas vraiment à toi, Seigneur. On demande avec instance que tu ouvres leur cœur et qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, on demande en son nom précieux.